If you're hungry and you don't know what to eat, and you're craving something cheap on the street, it's time for a bowl of pho.
How to pronounce in Vietnamese pho? Pho. Pho.
For a bowl of pho.
Le goût du monde, Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans Le goût du monde, l'émission qui se penche sur les marmites pour compter les bouillons qui y sont mitonnés et compte à leur tour une histoire du monde. La nourriture est un témoin fidèle. Aujourd'hui, nous allons plonger, ou presque, dans les volutes de vapeur s'échappant de notre bol. Des herbes fraîches sur le dessus, qui sait ? Un pays dans un bol, dit-on. Un pays à travers une soupe, le pho, que je prononce évidemment comme je peux. Comment dit-on ?
On dit pho.
Pho. Ah. Donc c'est comme s'il y avait un point d'interrogation à la fin, en fait, du mot.
Oui, c'est ça.
Bonjour, Mintam.
Bonjour, Clémence.
Mintam Tran, dont le nom traduit les origines vietnamiennes, évidemment. Musicologue, je crois, de formation. Et cuisinière, blogueuse également, puisque nous avons la chance d'avoir sur Internet eh bien, la kitchenette de Miss Tam, que vous avez créée il y a un moment déjà maintenant.
Oui, en 2012.
En 2012, pour... faire valoir votre culture ?
Oui, pour transmettre. J'aime bien écrire, j'aime la cuisine vietnamienne, j'aime échanger et transmettre, voilà. Faire la recherche.
Faire la recherche, c'est ça, oui. C'est vraiment transmission et dans la cuisine, dans tout ce qu'elle a de culturel.
C'est ça, culture, petite histoire et grande histoire.
Ouais, toute une aventure.
Oui.
Alors maintenant, on va partir à l'aventure, je vous propose. Si je vous dis pho, vous pensez à quoi ? Quelles sont les sensations qui viennent ? Où est-ce qu'on est ? Avec qui on est ? Vous savez, j'aime bien ce petit jeu-là parce que moi, je ferme les yeux et je vous écoute.
Ah oui. Alors, c'est pas très original, mais c'est le pho de mon enfance. Cette grosse marmite qui fait, 9 litres. Donc, c'est vraiment une très, très grande marmite et qui mijote comme ça toute la nuit. Et pour moi, c'était quelque chose de très mystérieux parce qu'on laissait à petit feu. Et puis, toute la préparation avec plein d'épices, le gingembre qu'on fait griller, les oignons qu'on doit faire griller, toute cette sorte de viande de bœuf, toutes les parties, plat de côte, paleron, macreuse, gîte. Enfin, pour moi, c'était tout un univers. Et attendre des heures, c'est 6 heures minimum de cuisson, c'est 6 heures à 12 heures de cuisson.
Pour réaliser ce bouillon.
Pour réaliser ce bouillon et ce plat, et pour manger en 5 minutes.
Et même vite, parce que c'est chaud.
Il faut manger très vite. 5 minutes, c'est presque trop long.
Qui est-ce qui mitonnait ce feu pour vous ?
Alors, c'était la femme de mon père, qui cuisinait, mais merveilleusement bien. Elle le faisait vraiment dans les traditions. Et surtout, j'avais énormément de chance avec elle, parce que elle m'expliquait tout. Et je pense que l'amour que j'ai de transmettre, c'est un peu grâce à elle. Choisir tel légume, telle partie de viande, pourquoi on cuit de telle manière, c'était inhabituel.
Elle allait dans les détails.
Oui, elle allait dans les détails.
Vous aviez quel âge ?
5-6 ans. La cuisine, c'était mon terrain de jeu, donc j'y étais tout le temps. Elle expliquait tout, pourquoi on coupait, dans tel sens. Les épices, il fallait les faire griller à sec. On devait griller les oignons, le gingembre pour faire sortir le parfum. Pourquoi on devait écumer le bouillon ? Pourquoi on devait laisser à petit feu, ne pas couvrir la marmite ? Parce que sinon, ça trouble le bouillon. Enfin bon, bref.
Ouais, tout avait une raison.
Tout avait une raison. Ouais. Et j'adore quand c'est argumenté, en fait. Il y a toujours une raison.
Et en matière de feu, je crois qu'on est un peu servi, parce que c'est vraiment un plat. Déjà, qu'est-ce que c'est que le feu ?
Alors, le feu, c'est une soupe de nouilles avec du bœuf, à l'origine. Donc, c'est un bouillon mitonné pendant des heures, avec des os et de la viande de bœuf. Et les nouilles, c'est des nouilles de riz plates, qu'on fait soi-même, enfin pas à la maison, mais normalement les marchands, ils font leurs propres nouilles. C'est cuit à la vapeur, en fait, avec un peu de fécule de tapioca, un peu de sel, de l'eau. Ils cuisent à la vapeur et après, ils coupent en bandes. Mm-hmm. Voilà, c'est comme des tagliatelles. Et il y a des épices. Voilà, la particularité de ce plat, ce sont les épices utilisées dans le bouillon.
Alors ce feu, pour le goûter et préparer cette émission, je me suis rendue dans l'une des plus anciennes boutiques vietnamiennes de Paris, à deux pas de la place Maubert, dans le centre de Paris, chez Tan Binh Jen, où Luan, qui travaille là depuis 15 ans, m'a guidée.
Bon, les fêtes de le pho, c'est difficile. Là, c'est dur.
C'est dur.
Nous, je prends le produit, le pho.
Mais qu'est-ce qu'il y a dans le feu?
Le pho, il y en a épices, cardamone, coriandre, graines de coriandre. Avec le fenouil aussi.
Ah oui, ça.
Cannelle. Noix de moutasse.
Oui, la noix de muscade, d'accord.
Voilà, c'est tout.
Et c'est
avec,
tout.
Oui, avec oignon, avec le gingembre.
C'est magique chez vous. Hein.
Oui. Mais en fait, c'est ajouté un bayane.
Ah oui.
Voilà, là aussi, dedans.
L'anis étoilé. Et donc, quand je commence mon feu, je fais comment?
Vous prenez le marmite, vous mettez de l'eau dedans. Après, vous ajoutez l'hibis, tout là. Après, vous ajoutez de radis blanc, de l'eau là, c'est bon, bon goût. Voilà, avec du viande de bœuf, avec les os. Mettez tout là, après goûter les goûts, mettre des sels, mettre des sucres dedans. Si je fais le pho, c'est bon pho, il faut faire aujourd'hui, lendemain le manger. Sinon, le manger tout de suite, c'est pas bon.
Et est-ce qu'on met des herbes?
Juste basilis avec le coriandre vietnam. Ciboulette avec le coriandre.
Voilà, merci. Merci beaucoup, madame, merci.
Donc, on a entendu le gingembre.
Alors, le gingembre, c'est les aromates. Donc, gingembre et oignon. Et au niveau des épices, c'est cannelle de Chine, casse, la badiane, coriandre, clou de girofle, cardamome noir. Voilà, je crois que c'est à peu près ça.
D'ailleurs, au parfum, comment est-ce que vous savez qu'un feu a été confectionné et qu'on va pouvoir le manger?
Quand il y a toutes les épices, et le gingembre sort très fort, très puissant. Si on oublie le gingembre, pour moi, ce n'est pas le feu. C'est fou. Une fois, j'avais oublié le gingembre. Je ne sais pas comment. C'est impossible d'oublier ça. Mais j'avais fait le feu comme ça et j'ai oublié de mettre le gingembre. Et ça sentait pas comme le feu. Comme... Et quand j'ai mis le gingembre, là, là, on est à la maison, quoi.
D'accord. Et en plus, un gingembre grillé, donc il doit avoir un parfum un peu particulier.
Tout à
il
fait.
Doit apporter. Est-ce que du coup, il apporte une amertume? Il apporte.
Non, il apporte pas d'amertume. On a l'impression. Je sais pas si scientifiquement c'est prouvé, mais en tout cas, c'est. On a l'impression que le parfum est plus puissant. Voilà.
Les allusions qui sont faites avec le riz et le feu sont assez sensuelles. Parfois, on parle du riz comme une femme fidèle, fiable. En revanche, du feu comme une maîtresse et une séductrice. C'est en tout cas...
C'est intéressant.
C'est ce que raconte Andréane Guyenne en introduction de son livre qui s'appelle « Feu, le livre de cuisine
». C'est une dame, une grande dame.
Elle raconte que son père dodelinait des hanches pour montrer justement que le feu était cette maîtresse séductrice et que sa mère ajoutait... La séduction, parfois, on s'en lasse, donc faut pas en manger tous les jours.
C'est pas mal. Hein.
Est-ce que c'est un plat que vous diriez sophistiqué? Tout le monde en mange à n'importe quelle heure de la journée?
Alors, le feu, c'est ça qui est extraordinaire. C'est un plat qui est délicieux, qui plaît à tout le monde. Je ne connais personne qui n'aime pas le feu, sauf si on est végétarien et qu'on n'aime pas, qu'on peut pas manger de viande. Mais sinon, c'est un plat qui plaît aux enfants, aux adultes, à toutes les classes sociales. On en mange à toute heure, mais normalement, c'est plutôt le matin. Au départ, puis maintenant, ben, on peut en manger à toute heure de la journée avec le tourisme. Et puis, c'est vrai que c'est vite englouti et c'est très bon. Donc, on va pas se priver de quelque chose de bon. Juste dire que c'est pour le petit déjeuner, c'est un peu dommage. Mais il est très simple. C'est-à-dire que pour confectionner un feu, il faut pas avoir des connaissances techniques culinaires. Mais par contre, la complexité, c'est dans la proportion et dans l'utilisation des épices et le temps de cuisson, la méthode de cuisson et tout ça. Ça, c'est un peu plus complexe. Mais si vous partez vivre dans un pays et vous voulez ouvrir un restaurant et vous ouvrez un restaurant de feu, je dirais que c'est presque assez facile, entre guillemets, de faire un restaurant de feu. Et techniquement, c'est assez simple, en fait.
C'est la une facilité. Des raisons, peut-être, aussi, pour laquelle le feu... Ça, c'est bien exporté, du coup.
Alors, ça s'est bien exporté pour plusieurs raisons. C'est d'abord parce que c'est simple à faire. Les ingrédients ne sont pas onéreux, faciles à trouver dans tous les pays, normalement, à part les herbes, mais on n'est pas obligé de mettre tant d'herbes spéciales. Ça dépend encore de quelle région on vient. Et en fait, ça ne demande pas beaucoup de travail non plus, parce qu'il faut juste laisser mijoter le bouillon et bon, cuire 3 heures la viande. Après, il suffit de les découper, mais il n'y a pas vraiment de grande préparation. Donc, c'est bien quand on a un business et puis qu'on on veut se faire un peu de marge avec quelque chose de bon et qui plaît à des gens. Le feu est un bon moyen de subsistance pour les réfugiés ou immigrés.
Il y a plein d'histoires qui entourent ce feu. Mm-hmm. On va avoir 1000 origines, ou en tout cas des grandes théories. C'est ce qui fait aussi la magie et le charme de cette soupe.
C'est vrai que cette soupe, c'est une soupe qui est... Pour moi, elle est très liée à l'histoire, avec un grand H. D'abord parce que, je vais vous parler un peu de mes recherches sur l'origine du feu.
Parce que vous êtes enquêtrice de feu.
Ouais, c'est voilà. Ça.
Cuisinière, musicologue, Sherlock Holmes, enquêtrice de feu.
Le feu. Alors, le feu, c'est un plat qui vient du nord du Vietnam. Et les premières traces, c'était la fin du 19e siècle, autour de 1880 à peu près.
Ça, on est sûr.
Ça, on est sûr, oui.
Donc, on oublie la dame qui avait mal à la gorge et qui a demandé à manger une nouvelle soupe en 1052. On oublie les soupes chinoises, on oublie tout ça.
On est dans le nord.
Donc, près de la frontière avec la Chine, quand même.
Ah oui. D'abord, c'est ça. Et c'est en plus pendant la période de la colonisation française. Et c'est pour ça que il y a une légende qui dure depuis des dizaines d'années autour de l'origine du mot feu, pot-au-feu.
Alors, ce qui n'a rien à voir.
N'a absolument rien à voir, mais je vais contre-argumenter parce que, alors, mon père m'a toujours dit ça quand j'étais petite et j'ai fait des recherches et je vois sur les sites de voyage au Vietnam, ils disent tous la même chose. Les gens, même des écrivaines, tout le monde pense que ça vient de pot-au-feu.
Donc, pot-au-feu, ce plat français qui est dans un bouillon, de la viande dans un bouillon avec des légumes.
Avec des légumes, navets, carottes. Puis, comme épices, il y a seulement des clous de girofle, hein. Il n'y a pas 10 000 épices. Voilà. Et c'est pas un bouillon.
Si... On fait cuire la viande dans de l'eau.
Oui, dans de
l'eau.
Donc
c'est pas un bouillon à proprement parler qu'on boit comme une soupe.
Exactement. Mais en plus, le fait de mitonner de la viande, c'est universel. Surtout dans ces contrées. Enfin, en Asie, en Extrême-Orient et en Asie du Sud-Est, le fait de bouillir de la viande dans de l'eau pour en faire un bouillon, c'est complètement normal. Donc, on n'a pas attendu, je pense, les Français pour ça. Donc, la période, c'est fin 19e. Dans le nord du Vietnam qui touche, donc, deux provinces chinoises, le Yunnan et le Guangxi. Et c'est la capitale du Vietnam, Hanoï. Il y a une ville qui s'appelle Nam Dinh. C'est une province et une ville aussi une grande industrie textile française. Et à cette époque-là, il y avait énormément de Français dans cette région. Et on dit que les Français sont des mangeurs de bœuf. Parce que chez nous, ce ne sont pas dans nos habitudes. On n'a pas d'élevage de vaches, on n'a pas une culture de lait, de fromage. Et on a quelques bœufs qui travaillent dans les champs, mais on ne mange pas les animaux de trait qui sont nos amis. Et on a surtout des buffles, hein, les buffles qui travaillent dans les rizières, parce qu'il fait très chaud, s'il fait humide. On mangeait du buffle, mais peut-être des occasions très spéciales. C'est assez cher. Et c'est pas tellement dans nos habitudes. J'entends à l'époque, parce que maintenant, on mange beaucoup plus de bœuf. On fait venir d'Australie ou d'autres pays. Et donc, on pense que c'est parce qu'il y avait des Français à Nam Dinh. Et comme on dit que le feu vient d'un village Vang Co, qui est de la province de Nam Dinh, où ils regroupent, il y a plein de marchands de feu dans ce village-là. Mais comme c'était une période où l'économie n'était pas florissante, ils ont dû migrer et aller s'exiler dans la capitale. C'est pour ça qu'on parle de Nam Dinh et de Vang Co, parce qu'ils pensent qu'ils se sont inspirés du pot-au-feu, en cuisinant le bœuf et tout ça, et en allant à Hanoï. Ils ont ouvert, ils étaient des marchands ambulants, ils ont ouvert des échoppes de feu, et ça a fait la réputation de cette soupe, etc., etc., etc.
Voilà. Vous y croyez?
Pas du tout.
Voilà.
Alors, que le feu vienne de Vang Co, pourquoi pas? Parce qu'il y a des témoignages, il y a des familles qui viennent de ce village-là et qui ont des échoppes de feu, mais ça veut pas forcément dire que le berceau du feu vient de là.
Dans la confirmation, là, c'est sûr, en revanche, que tous les avis convergent sur le fait que le feu est né dans le nord du Vietnam.
Voilà, je ne vous parle pas des origines, mais là où ce plat a vu le jour. Parce que, en fait, l'origine, c'est une influence. Hein. C'est comme le ramen japonais, ça vient du lamian chinois. Comme le gyoza vient de jiaozi. Enfin, bon, bref. Mais on ne va pas dire que les ramen japonais, ce n'est pas japonais. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont complètement, ils se sont appropriés.
Totalement intégrés
au
paysage et à la culture japonaise, tout
voilà,
à fait. Elles
ça.
Ont été, c'est des appropriations en fait, de mets souvent.
À transformer au goût de la population.
Oui.
Donc c'est un plat qui vient du Nord, ça c'est sûr. Et c'est très simple, donc bouillon, nouilles de riz, plate, des lamelles de viande cuite ou pas crue, mais juste plongées dans le bouillon très très chaud, c'est-à-dire mi-cuit, ou les deux en même temps. Avec des herbes, il y en a deux ou trois, c'est coriandre Il y a une menthe aussi qu'on met, mais c'est une menthe qui vient d'un village spécifique près de Hanoï. Enfin, il faut parler avec des puristes du pho du Nord. Ça, c'est un peu à part. Et des oignons verts. Enfin, ou sif, c'est bête.
D'accord.
Les oignons de printemps, là.
Voilà. D'accord. Qui et, sont coupés en petits morceaux.
Voilà, soit en tronçons comme ça, puis on cisèle la partie verte. Et puis c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Et on met peut-être un peu de citron. Et du piment frais à côté, si on veut en mettre dans le
bouillon.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Just a perfect day, Lou Reed sur RFI, vous nous rejoignez. Bienvenue, vous écoutez Le Goût du Monde dans les parfums du pho vietnamien, cette soupe emblématique et sur son histoire avec la cuisinière et passionnée Minh Tham Tram, vietnamienne d'origine. Elle a à cœur de faire découvrir la culture de ses racines. Nous parlons donc du pho, bouillon qui suscite toujours un engouement complètement fou. Donc nous étions dans le nord du Vietnam, dans la région d'Hanoï, où est donc né ce pho a priori. Qu'on a comparé au pot-au-feu des Français, mais rendons à César ce qui est à César, le pho et le pot-au-feu n'ont finalement rien à voir.
Non, si on regarde les deux recettes, à part la cuisson de la viande dans le bouillon, le clou de girofle et l'oignon grillé, le reste n'a absolument rien à voir.
La confusion vient-elle du nom à ce moment-là,
oui,
du fait
absolument.
Qu'on utilise le feu et le...
C'est un tout, c'est-à-dire que comme il y a eu la colonisation française, donc il y a un côté un peu affectif de... Enfin,
des Français à l'égard de...
Voilà, de dire le banh mi, c'est pain de mie, enfin tous les mots, tous les plats...
Un peu colonialiste alors comme souvenir.
Oui, ouais. Voilà, la nostalgie de l'Indochine.
D'accord. Ouais. On s'approprierait encore, alors du coup, dans les explications aujourd'hui, soit 70 ans après.
C'est ça. Mais ce qui est étonnant, c'est que les Vietnamiens reprennent cette théorie-là, qui est pour moi sans fondement réel. Alors, on va me dire, mais alors ça veut dire quoi ? Donc moi, je me suis amusée à lister tous mes constats sur, peut-être pas l'origine, mais l'influence de cette soupe, hein, de ce pho. Et clairement, je peux lister ces constats, argumenter, et montrer que ça n'a rien à voir avec le pot-au-feu, mais peut-être avec d'autres influences, peut-être l'influence de la Chine.
L'influence chinoise.
Voilà.
D'accord.
Déjà, il y a une logique. C'est qu'on a eu 1000 ans de domination chinoise dans notre histoire. De 1111 avant Jésus-Christ à 934 après Jésus-Christ. Donc on est de culture chinoise, c'est-à-dire on a le confucianisme, le taoïsme, on a eu l'écriture chinoise pendant jusqu'au début 20e siècle. On mange avec des baguettes, on a le calendrier solilunaire. On a une influence culturelle de la Chine, comme la Chine a pu aussi influencer en partie la Corée, le Japon, tous ces pays où on mange avec des baguettes, où on a le calendrier solilunaire. Et l'autre foyer qui a influencé une autre partie de l'Asie, comme l'Asie du Sud-Est, c'est le foyer de l'Inde. Et le Vietnam est dans une position géographique très intéressante parce que c'est vraiment au carrefour des deux influence, la Chine, avec le nord du Vietnam, le centre et le sud du Vietnam, c'est l'influence hindouiste parce qu'on a d'abord conquis le royaume Champa, hindouiste, et ça n'existe plus maintenant. Et dans le sud, on a le royaume Khmer, anciennement. Et c'est vraiment très récent, c'était je crois en 1880, c'était encore Khmer. Donc c'est...
Oui, c'est ça, le Vietnam que l'on connaît aujourd'hui, en fait, il est très récent.
Le sud est très récent. Et il y a énormément de brassages à la fois culturels, ethniques et culinaires dans le sud. Tout ça pour dire que l'influence chinoise, on a essayé de s'en sortir, bien sûr, parce qu'on a une fierté. Et donc on développe un sentiment patriotique très fort, aussi pour notre cuisine. Donc c'est vrai que dire que c'est rattaché à des envahisseurs, soit français ou chinois, c'est très réducteur pour nous. La situation géographique aussi. Le nord du Vietnam touche deux provinces, le Yunnan et Guangxi, qui sont des provinces qui ont une cuisine extraordinaire. Et j'ai fait des recherches au niveau des soupes de nouilles. Ça existe. Et étonnamment, il y a une soupe, par exemple, dans le Guangxi, une soupe à base d'escargots. Il n'y a pas d'escargots dedans, ce sont des escargots qui sont cuits dedans, mais qui ne sont pas servis dans le plat, avec des nouilles de riz. Alors, les deux provinces, Yunnan et Guangxi, utilisent des pâtes de riz. Dans ce bouillon-là, cuit dans des os de porc, donc là, ce n'est pas du bœuf, donc vous allez me dire, mais quel rapport? Eh bien, le rapport, c'est les épices. Et dans les épices, c'est exactement, quasiment les mêmes. Cardamome noir, c'est quand même particulier. Hein. On n'en met pas partout. Donc quand j'en retrouve dans d'autres recettes, j'essaie de chercher s'il y a une filiation ou une influence. Donc cardamome noir, casse ou cannelle de Chine, clou de girofle, feuille de laurier. En Chine, ils utilisent beaucoup le laurier. Graines de fenouil et anis étoilé ou badiane. Voilà. 5 épices. Bon, graines de fenouil, on n'en met pas toujours dans le feu, je crois pas. Tout ça pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup, c'est très troublant.
Beaucoup d'incidence.
Voilà.
Et qu'accessoirement, les nouilles de riz se prononcent fen.
Exactement.
En chinois.
Exactement. Mi fen, han fen, sha fen.
Et alors là, on retrouve notre début de feu.
Exactement. Du coup, moi, j'ai pensé à ça.
Et est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire de vendeur de soupe?
Si, justement. Alors, il y avait, à la fin du 19e siècle, énormément de vendeurs ambulants. On appelait ça le pho, gan pho. Gan, c'est porter. Hein. C'était des...
Oui, c'était des bars.
Des bars, ça, comme ça.
Avec des marmites,
voilà,
sur les côtés.
Voilà, des marmites sur les côtés pour l'équilibre. Et ils se posaient n'importe où. Ils étaient très mobiles. Et justement, ils vendaient des soupes de nouilles. Moi, je pense qu'il y a un lien avec ça.
J'ai lu une histoire selon laquelle ils vendaient des soupes de nouilles et qu'un jour, en fait, les Français qui étaient amateurs de bœuf le consommaient, mais n'utilisaient pas tout. Donc, il y avait aussi les restes de bœuf qu'on pouvait utiliser et donc qui auraient été jetés dans cette soupe. Et on a pu découvrir, du coup, qu'ils retrouvaient ce goût qu'ils appréciaient. Et du coup, c'était incidemment développé comme ça, ce feu.
C'est possible. Mais pourquoi faire tellement compliqué alors qu'on a une influence très claire avec nos voisins et qu'il y a une cuisine dans leur bouillon avec toute la technique de cuisson, c'est tellement similaire que forcément il y a... Enfin...
Mais parce qu'il est politique ce feu.
Oui, il est politique. Alors, c'est pas fini avec ça. C'est une anecdote par rapport au livre que nous avons fait en 2016, Nouilles d'Asie.
Et donc, Nouilles d'Asie.
Ce qui m'avait interpellée, c'est quand on préparait nos plats pour les photos, Margot venait, Margot Zhang,
qui
est chinoise, elle me regardait faire le feu au bœuf, feu bon. Et elle m'a dit, tu mets quoi? Alors, voilà, on préparait pour les photos. Elle m'a dit, mais c'est comme un bouillon chinois. J'ai dit, mais non, mais arrête. Pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? J'étais un peu vexée même, à la limite, c'était vraiment...
Tu ne peux pas réduire mon feu à un bouillon chinois?
Oui, tout n'est pas chinois, enfin comment? C'est pas possible. Et donc ça m'avait interpellée, et généralement j'aime bien comprendre et chercher, donc j'ai fait des recherches. Alors, du coup, ben, voilà, d'abord les provinces, avec les plats qui existent tout près du nord du Vietnam, et le feu. Alors, ensuite, il y a aussi une logique... Pot-au-feu, on dit pot, ça vient de pot-au-feu, alors que dans tous nos plats vietnamiens, le premier mot, quand c'est un plat complet, c'est toujours un féculent. Donc pho, c'est un féculent, c'est pas le feu, enfin c'est pas pot-au-feu, c'est pas... Pot-au-feu, c'est un plat hein, de viande. Hein, et si on utilise le mot pho, c'est forcément que ce mot a un lien avec des pâtes. Alors, ok, on dit ban pho pour dire les nouilles, mais par exemple chez nous, bun bo hui, bun bo sao, min ga, gom, sheng, neung, ban can, yo, heo, ban mi. Tout ça, ce sont des mots, pain, riz, vermicelle translucide, des pâtes, enfin voilà. Tout ça, ce sont des féculents avec une viande précisée, avec mode de cuisson. Si c'est sauté, ça veut dire qu'il n'y a pas de bouillon, et si la viande n'est pas désignée avec...
On a le descriptif du plat, voilà. Qui compose donc par le féculent.
Voilà,
et
féculent,
ensuite, on va avoir,
féculent,
la
garniture principale, soit le nom de la ville, Bun Bo Hue, donc ça c'est Bun Bo Hue, vermicelle de riz, bœuf, Hue, donc ça vient de Hue, et on sait que c'est une soupe. Mais si je dis Bun Bo Sao, c'est-à-dire vermicelle de riz, bœuf, sauté, et là c'est sûr que c'est pas une soupe. Hein. Donc, et si on dit comme Sheng Nung, comme c'est le riz, Sheng, travers de porc, et donc c'est grillé. Là, c'est sûr, c'est pas une soupe.
C'est très clair, en
c'est
fait.
Très clair.
Quand on parle vietnamien, on est nickel.
Oui, c'est ça.
C'est voilà. Pour ça que de dire donc... un boboon végétarien, ça n'a pas de sens.
Non, ou boboon au poulet, c'est comme si je disais un bœuf bourguignon au poulet.
Voilà.
Parce que bon, ça veut dire bœuf.
Bœuf.
Feu, voilà. Alors, feu, vous disiez tout à l'heure qu'on parlait de ce mot fun. Hein. Et vous avez tout à fait raison. Parce que, alors, je prononce très mal, excusez-moi, mes amis chinois, mais je ne sais pas comment on prononce, mais
moi
je sais
plus.
Que ça vient de sha fun en mandarin, je crois. Mi fun. Hafen chez les cantonais, et ce sont des pâtes de riz, alors soit cylindriques, soit plates, donc fun, fun, hafen, fun, fun. Mais si on dit fun en vietnamien, fun tout seul comme ça, ça ne va rien. Fun bo, fun ça veut dire excrément ou engrais, et fun bo ça serait bouse de vache. Donc on peut pas appeler une soupe bouse de vache.
Non, donc
impossible.
Comment est-ce qu'on l'aurait appelé alors cette soupe?
Ben c'est pour ça je pense qu'on a enlevé le n. Du coup, c'est plausible. Mais ça, j'avais lu, un journaliste vietnamien l'avait écrit et étonnamment, l'article a complètement disparu de la circulation et je n'ai jamais retrouvé l'article. Mais c'est une seule personne qui a écrit, donc je l'ai vu. Ça veut dire que quelqu'un y a pensé.
Oui, bien sûr.
Il y a une logique.
Non, parce que justement, comme on le dit depuis le début de cette émission, c'est vraiment un plat qui est identitaire et qui s'est fait approprier, qui a été transporté
voilà.
Et qui est un plat politique pour cette raison-là
tout
également, parce qu'au gré de l'histoire vietnamienne, il a beaucoup changé d'influence et c'est pour ça qu'on se penche et qu'on n'arrête pas de dire qu'il y a plein de mystères.
On est
dans le nord.
Oui.
Est-ce que je propose qu'on aille un petit peu dans le sud?
Oui. Alors c'est comme je vous le disais au départ, c'est lié à l'histoire et donc l'histoire du Vietnam est très complexe. Il y a des guerres, des invasions, des colonisations, et c'est vrai que avec la guerre d'Indochine, ça contribue à séparer le Vietnam en deux, hein, à la 17e parallèle avec les accords de Genève
en 1954.
Et là,
beaucoup de gens du Nord sont allés vers le Sud.
Pendant 10 ans, donc entre 54 et 65, jusqu'au début de la guerre du Vietnam, pendant 10 ans, énormément de gens ont quitté le Nord, ont quitté le communisme, en fait, et qui étaient des catholiques, en fait, en vrai, et qui sont descendus dans le Sud, ils sont exilés pour fuir ce gouvernement-là. Donc, ils sont partis avec des plats. Le bánh cuốn, c'est les raviolis, enfin les crêpes de riz farcies au porc. Le bánh cuốn, le pho. Il y a plein de plats comme ça qu'ils ont emportés. Le zò lúa, donc le chà lúa, comme on dit.
Donc, ça veut dire que de ces plats, il n'y avait aucune trace dans le sud.
Pas
avant,
vraiment.
Justement, cette séparation et cette division du pays. Enfin,
je pense
très peu.
Ou très peu. Ou c'était marginal. Parce que dans le sud, on a d'autres soupes. On a le hú tíu, on a vraiment...
Oui, avec d'autres saveurs.
Et donc, je pense qu'ils ont transporté toute cette culture culinaire avec eux. Et ça contribuait à se diffuser dans le sud, parce que les gens du sud adorent manger. Donc, encore un nouveau plat. Ça, c'est toujours toujours bon à prendre. Ouais. Et ils se sont adaptés au goût du Sud, c'est-à-dire, nous, dans le Sud, moi, je suis du Sud, donc je suis d'origine du Sud, ma famille, en tout cas, on aime la profusion, dans l'abondance. Et comme dans le Nord, c'est un plat, c'est pas austère, mais c'est un plat très simple, sobre, voilà. Et quand on arrive dans le Sud, on va rajouter des tripes, des boulettes de bœuf. Alors là, c'est le truc crime de lèse-majesté pour les gens du Nord. On va mettre plein d'herbes. Voilà, des pousses de haricots mango. Mais ça, dans le Nord, ils n'en mettent pas. Pas de pousses de haricots mango. Ils mettent des oignons vinaigrés. Et alors là, je pense le pire de tout, c'est la sauce, la purée de piment. Et la sauce hoisin, qui est une sauce barbecue chinoise. Voilà. Ça, je crois que ça, dans le bouillon, ça détruit tout. C'est comme si vous mettez du ketchup, je sais pas, dans votre pot-au-feu qui a cuit, votre grand-mère a cuit pendant des heures.
Alors qu'on a pris le soin de faire un bouillon bien clair. Voilà, c'est une catastrophe. C'est d'ailleurs une catastrophe. Ce qu'Andrea Nguyen raconte, vous savez, l'auteur du livre, le cookbook, ce qu'elle raconte dans son livre, de quand elle est arrivée, aussi des premiers feux.
Oui.
Et du manque du feu quand ils sont arrivés aux États-Unis.
Oui.
Quand nous avons émigré en Californie en 1975, il n'y avait pas de restaurant de feu. Les seuls que nous mangions étaient faits maison. Comme pour beaucoup d'exilés vietnamiens, rapidement le feu est devenu un plat très spécial, important, notre porte d'entrée vers nos racines et notre culture. Ma mère faisait souvent mijoter un bouillon de bœuf ou de poulet le samedi, et le lendemain, après la messe de 8 heures, nous nous hâtions de rentrer à la maison. Tout le monde avait son poste sur la ligne de fabrication du feu maternel. À table, nos bols étaient parsemés de piments frais et de feuilles de menthe. La simplicité de ce plat reflétait les origines nord-vietnamiennes de mes parents, épurées et sans artifice. Ils avaient vécu dans la libérale Saïgon, mais ne s'étaient jamais laissés aller à ajouter des pousses de soja, du basilic thaï ou des quartiers de citron vert, et encore moins de la sauce sriracha, qui pour ma mère était tout sauf vietnamienne.
J'ai cru que vous alliez me parler de la sauce sriracha thaïlandaise.
Oui, j'ai dit purée de piment. Et la sauce sriracha, c'est vraiment très récent parce que ça a été inventé par David Tran, d'ailleurs, c'est un Américain d'origine vietnamienne. C'est une sauce trop récente, je dirais pas. Maintenant, oui, on en met, mais on a d'autres purées de piment.
Mais c'est cette soupe-là, j'ai l'impression, celle du Sud, qui s'est presque plus facilement exportée, entre guillemets,
non,
ou alors parce que beaucoup...
C'est politique. C'est politique parce que il faut pas oublier que les boat people, c'était le Sud. Donc les gens qui sont partis, c'est des gens qui sont partis du Sud. Et même si parmi les gens du Sud, il y avait des gens du Nord, il y a une majorité de gens qui font la cuisine à la mode du Sud. Donc la restauration ou les restaurants que vous connaissez ici dans les années 80, ensuite, vous savez, après la chute de Saigon 75, et puis il y avait Médecins Sans Frontières qui aidait beaucoup les réfugiés politiques, donc les réfugiés vietnamiens. On ne disait pas des migrants à l'époque, on disait des réfugiés. Et donc il y avait deux destinations, Amérique du Nord, Australie, enfin Océanie, pays anglophone, et l'Europe, en particulier la France, parce qu'on avait une histoire avec la France, donc voilà. Et donc, les gens qui ouvraient les restaurants, c'était pas des cuisiniers, c'était pas des professionnels, c'était des gens qui ne pouvaient pas faire valoir leur diplôme.
Bien sûr, des réfugiés études, exilés qui ont dû se reconstruire toute une vie.
Très, très, très difficile, et qui avaient comme seul moyen... le goût. Hein. Tous les Vietnamiens, je dirais, alors c'est un peu prétentieux de dire ça,
c'est
mais on a le goût. C'est-à-dire qu'on a une mémoire gustative très forte, qui est émotionnelle, affective. Donc elle est vraiment ancrée en nous et pour toutes les générations, que ce soit les Vietnamiens du pays ou la diaspora, que ce soit la première génération ou la troisième génération, c'est vraiment ancré en nous, c'est notre ADN, le goût du Nguyen Mam, le goût du Vietnam. Et ce goût-là, on peut le reproduire parce que finalement, c'est assez simple de reproduire le goût avec ce qu'on a, même si on n'est pas cuisinier, mais parce qu'on aime manger et donc ça active voilà des zones. C'est très
Elle te tient le ventre, c'est normal.
Ouais.
Le goût du Vietnam, il est dans les tripes.
Ouais.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Yeah. Back in the town, call up the goons, bring the Honda around, my dude, give it some room, for a 6-foot producer with a real heavy appetite, I got a hankering, I'm trying to get my tummy right, with some rice noodles, in some beef broth, basil in the mint leaves, drown in the hoisin sauce, when you want it, not really much to say, we eat a big bowl and go smell like it all day, bean sprouts with a pinch of little lime, got me feeling kind of fresh, thinking about the next time, home at the crib,
stuffy head, sick with the cold. Take the chicken noodle soup can and throw it out, bro. You under the weather, boo-boo, you need this hit. A boiling broth full of the beef brisket. And it don't rhyme with yo, so quit the perpetrating there and get a bowl of Vietnamese noodle soup, player. What's up, dude? We eat pho, dude. You like tripe? Yeah, alright, so do we too. If you come to the town, I'll probably see you. If you really down with the ill bit food, cause it's real, dude, how I feel, dude. When the noodles get hot, they're kinda see-through. You give my partner a call, he can come meet you to go and get you a bowl, because you need to. Uh-huh. My, oh my, we're gonna hit the first spot, gonna get pho Thai, like la la, ooh la la, we cop a can of Thai tea at the Viet Wah, or oh boy, some yayo soy. If you don't want boat, then get the ganoy. A couple of squirts of that sriracha sauce, make it nicely spicy, have you feeling like a boss. Iced coffee, the egg and the bun me, we eating hella good in the city by the sea. Pho bak, pho bit, pho siklo, tun tau, maybe tun bros or tun V. Laughing cow smiling at me as I pick up the bottle made by Lee Kum Kee. A trip to the deli noodle house, a bakery is like an everyday thing out here, better believe. Pho dude with some bun su, Thuan An with the extra long hair do. He on the poster.
Pho 99 de What's Up Fam avec le rappeur Sabzi sur RFI. Vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde. Nous savourons un pho brûlant et remontant la trace de ce plat identitaire du Vietnam, un plat nation tellement aimé qu'il est décliné en musique, en spectacle, en bande dessinée, en dessin animé. L'art du feu, j'ai trouvé, enrichi, un feu partagé en fait depuis le début de cette émission avec Minh Thanh Tram, cuisinière, auteur du site La Kitchenette de Miss Tam qui est très intéressant et donc détective de feu. On est d'accord, nous remontons l'histoire. Donc nous avons quitté le nord, nous sommes arrivés au sud et maintenant nous sommes arrivés un petit peu partout dans le monde. Alors vous disiez juste avant qu'on écoute cette... c'est rigolo quand même, c'est fou tout ce que j'ai pu trouver,
ouais.
De chansons, de musique, de rap, de comment on s'est approprié
tout à fait
ce pho, mais vraiment comme une, vous diriez comme une identité.
Oui, parce que c'est toute notre histoire en fait, c'est un exil forcé, c'est un exil politique, c'est très dur, on est obligé de partir, donc il y a un arrachement comme
une
ça.
Une question de survie.
Ah oui, c'est horrible. Et les générations suivantes, le seul moyen de transmission le plus direct, c'est le goût. C'est le ventre. En plus,
parce que ça se passe de mots.
Ça se passe de mots et on est très pudique dans nos déclarations d'amour. C'est vrai que les mères souvent ne disent pas je t'aime aux enfants, mais vont peut-être plutôt faire un bon plat. Et d'ailleurs, la première chose qu'on demande à son enfant quand il rentre, t'as faim ? C'est pas tu vas bien, ça a été à l'école, c'est est-ce que t'es heureux, heureuse, je sais pas. Non, c'est ta faim, c'est la première question. Donc le pho, comme c'est facile, entre guillemets encore, c'est facile à faire, c'est pas onéreux, c'est tout de suite revigorant, réconfortant. Toutes les familles font ce plat, c'est un plat qui est apprécié par tout le monde. On est sûr au moins, si on fait ce plat, que ça plaît à tout le monde. Donc c'est pas difficile, et on peut laisser mijoter des heures, on peut faire autre chose, on peut travailler. Et puis à la fin, on a un bon repas. Et les enfants d'immigrés, de première génération nés hors du Vietnam, c'est leur moyen de connexion avec le pays. Parce que faute de pouvoir retourner, alors après il y a des gens qui retournent pour visiter et tout ça, mais le premier contact avec le pays, c'est le goût.
Pour pouvoir s'insérer, pour pouvoir faire découvrir aussi sa culture.
C'est ça, parce que souvent à table on raconte des histoires, on dit voilà, ah je me souviens, j'étais à tel marché avec ma mère ou avec... C'est toujours émaillé d'anecdotes, donc c'est très vivant en fait.
C'est votre propre histoire également ?
Oui, un peu. Mais moi, je viens pas de famille de boat people, donc c'est un peu différent parce que c'était quand même pour des études ou pour fuir peut-être une situation économique pas très stable. Mais moi, j'ai un souvenir avec la nourriture qui est très fort et c'est ça qui m'a permis de me connecter avec mes origines. C'est sûr. C'est par la nourriture et à travers l'histoire qui était toujours racontée, que ce soit des histoires de famille, des histoires de la grande histoire avec un grand H.
Avec un grand H.
Voilà. Et c'est très émouvant, hein, parce qu'on a toujours des anecdotes. Ah, je connais un tel, ou ah, tu sais, la tante numéro machin, elle a vécu ça, elle a fui, elle a vécu dans la jungle, ou enfin bon, voilà, c'est pour fuir
cet exil. Ouais. Voilà. Ce pho, il a beaucoup voyagé aux États-Unis, au Canada, ouais. à Sydney.
C'est une institution.
C'est une institution. Et cependant, en France, je connais peut-être quelques restaurants vietnamiens qui s'appellent pho, mais pas beaucoup en comparaison, alors que ça semble être tellement évident dans les pays anglo-saxons. Comment est-ce que vous expliquez ça?
Je pense que c'est aussi des questions, pas économiques, mais aux États-Unis, on peut ouvrir très facilement des restaurants. Les études sont très chères pour les enfants, l'université et tout ça. Et donc, il faut travailler, quoi. Et là, c'était, je pense, le moyen le plus simple et le plus facile. On peut ouvrir des restaurants de pho. On fait que ça, comme ça, on se prend pas la tête. C'est, voilà. Et au moins, ça sera bon, parce que c'est frais. Et voilà.
Mais c'est un peu la clé aussi dans le goût vietnamien. Ouais. Il y a la fraîcheur qui est très présente
exactement,
également.
Exactement, exactement. En France, on a une tradition culinaire plus forte. C'est-à-dire qu'on aime manger, prendre le temps. On va s'asseoir, on est dans un restaurant. Aux États-Unis, c'est plus fast food. Donc, c'est vrai qu'on va manger vite un bol de pho et c'est bon. Un restaurant de pho, je sais pas si il faudrait proposer d'autres choses.
Proposer, il y a bien des restaurants, c'est rigolo comme c'est un plat également à l'image des ramen qui sont complètement implantés en France également. Ouais. À quand le pho?
Oui, mais le pho
et le pho 14, il y a un grand restaurant
très très bien
dont l'histoire est
Très très émouvante. J'ai lu le témoignage de l'actuelle patronne de pho 14 qui ont ouvert une deuxième succursale au Louvre. J'ai lu son témoignage, donc l'histoire de ses grands-parents qui avaient des restaurants, qui venaient de Saigon, qui ont immigré au Cambodge. Et les parents aussi ont ouvert des restaurants, ils ont tout perdu, il y avait la guerre, les Khmer Rouges, ils sont revenus au Vietnam, ils sont cachés dans la jungle. Enfin, c'était une histoire incroyable, hein. Très très émouvante. Et puis après, ils sont venus en France, ils ont ouvert des restaurants. Alors, un premier restaurant, je ne sais plus dans quel arrondissement, ensuite dans le 12e, et après, ils sont allés dans le 13e, justement, Chinatown, le futur Chinatown. Et ils ont gardé ce restaurant. Il y avait le Mondial, qui était aux grands-parents, et les parents de cette femme, qui s'appelle Monica, je crois, a ouvert ce feu 14. Alors pourquoi 14? C'est parce que le premier, c'était au 14 rue Baudricourt. Hein, et donc ils ont gardé le numéro.
Le 14.
Le 14. Alors qu'ils sont au, je sais plus, 129 avenue de Choisy. Et donc cette femme, Monica, et sa sœur ont repris le...
L'établissement de leurs parents.
L'établissement de leurs parents ont ouvert un deuxième établissement. Et j'adore cette histoire. C'est vraiment... ça arrive à plein d'autres familles et c'est une famille qui a réussi et grâce au feu, ça c'est...
C'est le génie du feu aussi, oui. C'est qu'on peut le réinventer, il va s'adapter en fonction des endroits où on le fait.
Ouais. C'était un des premiers, enseigne feu, seulement feu. Alors après, je crois qu'ils ont proposé quelques plats, je crois qu'ils ont 4-5 plats différents, mais c'est le grand maximum et après d'autres gens ont copié, mais c'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est vraiment une institution. En Australie aussi.
Hein, et puis on peut le changer en plus. Il n'y a pas une histoire de nouilles frites, le bouillon.
Le bouillon, il est cuit et recuit. On prend et puis après on rajoute de l'eau, on rajoute des os. En fait, le bouillon, il est vivant, quoi. Il est infini, quoi.
Si vous deviez faire le pho de votre Vietnam. Est-ce qu'on a le droit déjà de décloisonner? Bon, vous garderiez le gingembre et l'oignon pour le goût.
Alors, écoutez, on pourrait réinventer, mais pour moi, ça serait un autre plat. Parce que pour moi, le pho, c'est tellement... C'est le pho sacré. Il n'y a que deux variantes. Il y a le bœuf et le poulet.
Et le poulet,
qui est arrivé plus tard.
En 45,
c'était la guerre d'Indochine. Il y avait l'invasion japonaise. C'était la misère totale et on pouvait pas trouver de bœuf et tout ça et ils ont commencé à mettre le... Et c'est pas fait pareil avec le poulet, il y a moins d'épices, c'est très très bon, moi j'adore. Mais il y a moins d'épices parce que les épices ça masque aussi le goût du bœuf. D'ailleurs je voulais, si vous me permettez, parce que j'avais pas fini tout à l'heure sur le fait que ça avait une influence sans doute chinoise, j'ai dit sans doute pour pas trop polémiquer auprès de mes amis vietnamiens, c'est que dans la cuisine vietnamienne, et d'ailleurs ma compatriote, l'écrivaine Kim Thuy, l'avait dit dans votre émission, on n'utilise pas d'épices sèches dans notre cuisine. Il n'y en a pas. C'est en Inde et en Chine. Et dans nos bouillons, et je sais parce que j'ai écrit un livre sur les nouilles, et je donne des cours de cuisine vietnamienne. Donc il me faut connaître un peu le répertoire de la cuisine vietnamienne. Et donc j'ai étudié, on va dire, toutes les soupes principales, il y en a beaucoup, et aucune ne comporte d'épices sèches utilisées par les Chinois, notamment. Nous utilisons des os, donc ça les Chinois aussi, mais on utilise surtout des crustacés séchés. C'est-à-dire, on utilise des krill, crevettes séchées, calamars, Et on utilise beaucoup des choses en saumure et fermentées. Des pâtes de crevettes, en saumure fermentées, des pâtes de poisson même, comme le nukma, mais c'est avec vraiment des morceaux bien fermentés. Dans le sud, le bunmam, par exemple, c'est avec ça. Hein. C'est très spécial. Donc, on utilise ça, mais on n'utilise pas des épices. On n'utilise pas la badiane. Pour moi, l'odeur de la badiane, c'est très associé à la cuisine chinoise. Mmh. La cannelle, on n'utilise pas. Ni dans les desserts, d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai que c'est que des épices sèches.
Oui.
Et sur le dessus, ce qui est amusant, c'est qu'en définitive, pour sublimer, entre guillemets, ce pho, on va mettre des herbes fraîches.
Oui, mais en Chine, ils en mettent aussi. D'ailleurs, l'origine, c'est avec des coriandres et oignons verts. C'est exactement ça.
Mais dans peux vous rendre, moi, votre feu.
Par contre, dans le sud, c'est vrai qu'ils ils mettent d'autres... Alors, il y a la coriandre longue, épineuse, qui est très forte. D'ailleurs, il y a plein de gens qui n'aiment pas cette herbe parce qu'elle est très, très puissante. Le basilic thaï, qui a un goût anisé comme ça. Moi, j'adore. Moi, j'aime beaucoup la version du Sud. J'aime bien la version du Nord pour le côté peut-être intellectuel et pur, culturel.
Sage.
Mais si je devais parler avec mon ventre, je préfère la version du Sud.
Donc, votre feu de votre Vietnam serait une version du Sud.
Ah oui, du Sud.
Totalement.
Désolée,
Sud.
Désolée, mes amis du Nord. Désolée. Mais par contre, exit sauce hoisin.
Oui.
En français, vous dites voisin, c'est trop drôle.
Absolument.
Ouais. Et mon ami voisin, ça c'est impossible pour moi.
Non, parce que ça va gâcher justement le goût du bouillon.
Oui, ou il y en a qui mettent aussi à côté.
Oui.
Alors, le citron, c'est pas une aberration. Non. La cuisine, c'est de la chimie. Et le citron, c'est un révélateur de saveur. Essayez une fois de goûter le pho sans le citron. Vous goûtez, vous prenez 2-3 lampées de bouillon. Et ensuite, vous pressez le petit quartier. Il ne faut pas mettre trop, c'est pas un bouillon au citron. Vous mélangez bien et vous regoutez après. Vous allez voir, c'est deux mondes. Vous avez une soupe 2D, comme je dis en cours, une soupe 2D. Et quand vous mettez le citron, c'est
3D.
Une soupe 3D. Voilà,
qui a 3 dimensions.
Beaucoup de relief et tout ça.
Moi, je suis curieuse parce que vous avez apporté un ingrédient, un ustensile. Alors, c'est une sauce que vous nous avez apporté comme ingrédient.
Alors, moi, on m'appelle Madame Nukmam parce que moi, je mets du Nukmam partout, mais surtout dans le feu, ce qui nous distingue peut-être.
Et parce que j'ai entendu dire que le Nukmam dans le feu, ça apportait trop un parfum de poisson.
Pas du tout. Oh là là. Il faut savoir quand en mettre. Il ne faut pas mettre au début de la cuisson, il faut mettre en fin de cuisson.
Ça, vous nous le direz dans la recette qu'on pourra mettre
sur le
site internet, on est d'accord.
Ouais. Ça, c'est très vietnamien. Du coup, pour moi, par rapport à cette influence chinoise pour réconcilier avec mes amis vietnamiens, c'est qu'on s'est approprié, je pense, on a eu cette influence dans ce plat-là et on l'a transformé à notre goût, comme les Japonais ont transformé les lamian en ramen. Et aujourd'hui, plus personne ne dit que les ramen, c'est chinois.
Et alors ça, c'est une grosse boule filtre.
Oui, alors ça, c'est pour prédire l'avenir et pour gagner au loto. Non, alors c'est une très grosse boule parce que je mets mes épices dedans. Alors, on peut mettre dans des sachets, mais c'est du gaspillage. Moi, je préfère quelque chose qui se lave et qui se réutilise. Je l'adore, cette boule. Elle est très grosse parce que c'est pas la taille habituelle, mais j'ai beaucoup d'amour pour cette boule à thé. Voilà. Parce qu'en fait, dans le feu, c'est la seule soupe où on utilise une boule à thé avec des épices sèches.
Avec les épices sèches, exactement. Puisque c'est la seule soupe
qui sont
utilisées
par les Chinois. Et c'est le seul plat.
Bon, on a fait le tour de l'Asie. Merci beaucoup, Mintam.
Mais c'est un plaisir.
La kitchenette de Miss Tam, pour vous suivre, donc l'adresse est simple, misstamkitchenette.com. On la mettra également sur le site internet. On vous lit, on vous suit, on s'inspire.
Et prenez des cours de cuisine.
Et en cuisine, absolument. J'allais le dire, en cuisine avec vous, on apprend à cuisiner ce pho délicieux.
Oui.
Et les histoires qui accompagnent évidemment toute cette cuisine. Cette soupe, la connaissez-vous? S'est-elle mêlée aux produits de chez vous? Je suis sûre qu'il y a ainsi des recettes surprises et inédites. Vous avez la parole sur les réseaux sociaux du Goût du Monde et sur WhatsApp 33 6 43 16 15 66. Merci beaucoup à Cécile Benissi qui a réalisé et mis en onde cette émission. À vous tous d'être au rendez-vous chaque semaine. À samedi prochain, même table, même heure.